Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Frères et sœurs, l'Église universelle nous invite à faire mémoire de Saint Augustin, docteur éminent de l'Église. Et pour nous, dans l'ordre canonial, Saint Augustin est notre père, c'est-à-dire celui qui nous a donné quelque part la règle de vie sur laquelle nous vivons, et c'est une solennité pour nous. Nous nous réjouissons pour ce don précieux qui est fait à l'Église de la présence et de la vie de Saint Augustin. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché.
Prions le Seigneur. Renouvelle, Seigneur, dans ton Église l'esprit dont tu as comblé l'évêque Saint-Augustin. Pour que, remplis de ce même esprit, nous n'ayons soif que de toi, source de la vraie sagesse, et ne cherchions que toi, auteur de l'éternel amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne se disait propriétaire de ce qu'il possédait, mais on mettait tout en commun. C'est avec une grande force que les apôtres portaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et la puissance de la grâce était sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans la misère, car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et ils en apportaient le prix pour le déposer aux pieds des apôtres. On en distribuait une part à chacun des frères au fur et à mesure de ses besoins. Parole du Seigneur.
Voyez qu'il est bon, qu'il est doux, d'habiter en frères tous ensemble. Voyez qu'il est bon, qu'il est doux, d'habiter en frères tous ensemble. Oui, il est beau, il est doux pour des frères, de vivre ensemble et d'être unis. Voyez qu'il est bon, qu'il est doux, d'habiter en rêve tous ensemble. On dirait un baume précieux, un parfum sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de son vêtement. Voyez qu'il est bon, qu'il est doux, David et l'envers tous ensemble. On dirait la rosée de l'hermine qui descend sur les collines de Sion. C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, la vie pour toujours. Voyez qu'il est bon, qu'il est doux, d'habiter en brève tous ensemble.
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu et ils connaissent Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici à quoi se reconnaît l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils, qui est la victime offerte pour nos péchés. Mes bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour atteint en nous la perfection. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous à ce qu'il nous donne part à son esprit. Et nous qui avons vu, nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons reconnu et nous avons cru que l'amour de Dieu est parmi nous. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Jésus disait à ses disciples, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul enseignant, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur la terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus appeler Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Avec l'élection du pape Léon XIV, je dirais le chrétien moderne, c'est-à-dire le chrétien d'aujourd'hui, redécouvre un peu la figure de Saint Augustin, puisque on ne connaissait pas encore ce pape Robert, et on a découvert qu'il fait partie de l'ordre du grand Augustin. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur Saint Augustin, mais j'aimerais m'arrêter sur sa conversion, puisque aujourd'hui, actuellement dans l'Église, et particulièrement dans l'Église de France, Nous avons beaucoup de demandes de baptême. On ne sait pas d'où ils sont venus, mais ils sont là. L'Église ouvre grande ses portes en mettant des techniques, des méthodes pour pouvoir amener les personnes à Jésus-Christ. Et voilà que ça rentre par la fenêtre ou par le toit. Et on ne sait pas trop comment s'y prendre. On les accompagne comme on peut. Et après le baptême, ça devient de plus en plus compliqué. Parce qu'on s'est dit, oula, on les a amenés jusqu'au baptême, ça y est, on a fait du travail. Mais après, beaucoup de curés, beaucoup d'évêques se cassent la tête actuellement en essayant de permettre à ce que ces nouveaux baptisés ou ces nouveaux convertis puissent trouver leur place dans l'Église. Me semble-t-il que Augustin a quelque chose à nous dire pour nous aider peut-être à mieux accompagner ceux qui redécouvrent la foi ou ceux qui reçoivent le baptême en cette période. Souvenons-nous que Augustin, à Milan, je ne vais pas faire toute l'histoire de Saint-Augustin, sinon on aura pour toute la journée, et ce n'est pas le but, mais je vais prendre quelques points qui vont nous aider. À Milan, entre dans la cathédrale et voit l'évêque Ambroise, qui, silencieusement, lit les Écritures, s'élève, ne bouge pas, il voit que cette personne a de la prestance. Rappelons-nous qu'à l'époque, cet Augustin étant rhétorique, il fallait parler, parler et parler. Même quand on lit, il faut lire à haute voix, que ce soit audible. Mais une lecture silencieuse, ça paraissait bizarre. Et ça a interrogé Augustin dans son intérieur, ce silence. Et c'est un peu le point de départ. Mais semble-t-il que, d'ailleurs, quand on va à Milan, à l'église Saint-Ambroise, la fresque qui représente Saint-Ambroise, on le représente toujours avec une grande oreille qui est démesurée par rapport à l'ensemble de son corps. Il dit l'écoute, le silence et l'écoute. Et c'est ce qui a interrogé Saint-Augustin. Mais semble-t-il que dans le mouvement de conversion, le silence est important. Et nous verrons que ce silence va prendre de plus en plus la place dans l'histoire de Saint-Augustin. Et Saint-Augustin devient pour nous un maître intérieur, en fait. Il peut nous aider aussi à accompagner ceux qui redécouvrent la foi. Donc ce silence n'est pas un silence vide, mais c'est un silence qui est habité par une présence. Saint Augustin, par son histoire, a été confronté au manichéisme, c'est-à-dire c'est un mélange à la fois du christianisme, du bouddhisme, de la philosophie grecque, et d'une religion ancienne venant de Perse. Et tout ça, ça a donné une forme de spiritualité, du dualisme entre le bien et le mal, c'est-à-dire le corps, la matière, c'est les ténèbres, et l'esprit, c'est la lumière. Donc il y avait une tension énorme en Augustin, une tension énorme, bien sûr, à ceux qui fréquentaient cette religion, cette spiritualité. Et Augustin, en face de cette impasse, dans ce tourbillon qui l'habitait, me sentit qu'il avait besoin de voir et d'entendre ce silence. Voir et entendre un silence. Et c'est Saint Ambroise qui lui a conduit. Dans toute conversion que nous avons peut-être vécue, la part de silence est importante pour restructurer en nous-mêmes à la fois notre identité et la relation avec Dieu. C'est-à-dire, n'hésitons pas à cultiver et nous n'hésitons pas à nous éduquer et à éduquer au silence habité. Ça, c'est peut-être la première réalité que j'aimerais relever de la vie de saint Augustin. S'il y a le silence, il y a aussi le lieu. La conversion, je dirais, due de saint Augustin, qu'on relève, vient de son dialogue, cette expérience qu'il a fait dans ce petit jardin à Cassisiacum, non loin de Milan, où il est en campagne avec sa mère et ses amis pour un temps de repos, de réflexion sur lui-même et pour se projeter sur l'avenir. Et là, il entend la voix d'un petit garçon qui chante et qui lui dit « Prends et lis le jardin ». D'ailleurs, on retrouvera encore ce jardin quand Saint-Augustin retournera à Hippone et que l'évêque de là-bas, Valère, va lui donner un jardin pour pouvoir construire un monastère, le jardin. Ce jardin nous ramène en fait au premier livre de la Bible. Lorsque Dieu crée, il crée l'homme, il le met dans le jardin d'Éden. Et ce jardin d'Éden, l'homme est en constante relation avec Dieu. Dieu descend, il communique avec l'homme comme un ami communique avec son ami. Et dans ce jardin, nous avons aussi le drame du péché. Le drame du péché, mais Dieu n'abandonne pas l'homme, puisque malgré le péché de l'homme, Dieu s'avance vers l'homme. Mais pourquoi vous êtes cachés? Eh bien, parce que nous étions nus. Dieu n'abandonne pas l'homme à son sort. Et me semble-t-il que la présence du jardin dans l'histoire d'Augustin, ce n'est pas simplement pour faire décor, mais c'est pour planter vraiment la réalité d'un départ nouveau pour la conversion, où Dieu vient rencontrer l'homme, pour l'amener progressivement à la lumière. Peut-être pour nous aussi, c'est une question, quel est notre jardin où nous rencontrons le Seigneur? Ce jardin n'a pas quitté la vie d'Augustin, l'a habité jusque à la fin. Et peut-être aussi pour les personnes qui viennent à la foi, qui reçoivent le baptême, après le baptême, quels sont les jardins que nous leur proposons, où ils peuvent se retirer? Vous voyez, dans le jardin de Cassisiacum ou à Hippone, Augustin n'était jamais seul. Il était avec ses amis, sa maman, son fils. Il n'était pas tout seul. Quels sont les jardins? Quel est le jardin que nous avons, où nous nous retrouvons avec le Seigneur? En cela, Augustin aussi peut nous aider. Dans ce jardin, qu'est-ce qu'il faisait? Dans ce jardin, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il vivait la vie commune. Comme nous l'avons entendu dans la première lecture, tous ceux qui adhéraient à la foi étaient unis, un seul cœur, une seule âme. Et d'ailleurs, la règle qui nous vient de cet Augustin que sous laquelle nous vivons, elle commence aussi. Nous sommes en Dieu, un cœur tourné vers Dieu, une seule âme, un seul cœur tourné vers Dieu. Il y a l'unité. Je dirais, ce qui fait la force de l'Église et qui fera toujours la force de l'Église, c'est l'unité. L'unité avec son Seigneur qui est la tête et nous en sommes les membres, mais l'unité aussi entre nous. Et saint Augustin a vécu cette unité. Il nous présente comme un don précieux. Avec ceux qui vivent une conversion, quel chemin d'unité nous leur proposons? Unité intérieure, c'est-à-dire avec le Seigneur, et unité ecclésiale, c'est-à-dire entre chrétiens. Et saint Augustin, dans ses jardins, méditait la parole de Dieu. me semble-t-il, de ce que je crus entendre, en lisant la parole, c'était un délice, il en pleurait. Notre relation à la parole de Dieu. N'oublions pas qu'il y avait des traces encore, il y avait du combat en Augustin vis-à-vis de cette religion du manichéisme qu'il habitait, ce dualisme qu'il habitait. Et Saint-Augustin avait besoin d'être pacifié. Et cette pacification s'est faite par l'amour vrai, l'amour du Seigneur. On le présente, Saint-Augustin, habituellement, dans la main avec un cœur brûlant et un parchemin, sa règle. Ce cœur brûlant, c'est un cœur de charité, d'un amour vrai. À un moment, quand nous accompagnons les nouveaux convertis ou les nouveaux baptisés, on peut se laisser aller dans une espèce de routine, lassitude. Et cet accompagnement, ce compagnonnage, au lieu d'être un élan dynamique vers une vie de ressuscité, peut être lourd et être un poids lourd, poids mort pour nous. Quels sont les lieux où nous redynamisons cette charité? Me semble-t-il que le cœur, c'est l'Eucharistie. Là encore, cet Augustin peut nous aider par sa prière et ses enseignements. Si saint Augustin méditait la parole de Dieu, il avait en face de lui aussi toutes ses erreurs. Il me semble qu'il fait partie des grands, des géants qui ont pu mettre des mots sur ce que nous vivons de notre foi. On ne peut pas définir Dieu, mais saint Augustin permet de faire une approche beaucoup plus claire. Il a apporté beaucoup de clarification dans la compréhension de la foi. Et beaucoup, beaucoup de théologiens se sont appuyés sur les travaux, les écrits de saint Augustin, à commencer, bien sûr, par saint Thomas d'Aquin, qui a apporté une donnée majeure dans la compréhension de notre foi. Là aussi, ça peut être intéressant pour nous, pour ceux que nous accompagnons sur ce chemin de conversion. Qu'est-ce que nous leur apportons comme nourriture? Il y a le catéchisme de l'Église catholique qui est très bien fait, qui permet de mettre des mots, qui permet de comprendre. C'est peut-être un élément de travail sur des années pour la compréhension et l'approfondissement de notre foi. Je dirais avec saint Augustin, la présence de Dieu dans le silence, la vie communautaire commune où l'unité doit être un élément important, et la formation de l'être intérieur, afin que nous soyons de vrais chrétiens, c'est-à-dire des chrétiens solides qui ne se laissent pas embarquer ou balloter avec, je dirais, la nouveauté, avec les peurs qui peuvent nous habiter concernant le sort du monde et avec bien des choses qui nous empêchent d'être réellement libres. Peut-être que pour nous aujourd'hui, en célébrant cette solennité, la fête de saint Augustin, c'est de lui demander de nous aider, d'être aussi un maître intérieur pour nous, pour notre vie spirituelle. Amen.